Merci. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Michel Vetter. Michel Vetter est né en 1941. 43, ben, ça commence fort, oui. Je crois qu'il faut que je mette mes lunettes. En 43, bien sûr, à Genève. Son parcours professionnel est à l'échelle de son insatiable curiosité pour l'aventure humaine. Docteur en droit de l'Université de Genève, Michel Vetter a travaillé au CICR durant 33 ans. C'est un pionnier de la diplomatie humanitaire du CICR. C'est un homme de réseau très branché. Je dois dire que c'est le premier que j'ai vu manipuler un ordinateur portable en séance au CICR dans les années 80, histoire de se rajeunir un peu. J'aimerais souligner la multiplicité, la diversité des fonctions qu'il a exercées dans le cadre du Comité international de la Croix-Rouge. Il a été membre de la division juridique, chef de la division des organisations internationales, il a beaucoup travaillé à New York, délégué général pour l'Europe et l'Amérique du Nord, assistant du président du CICR, et chef de délégation régionale pour l'Afrique australe et l'océan Indien, sans oublier diverses missions sur le terrain, en Afrique, en Asie, en Orient. Aujourd'hui, Michel Vetter demeure très engagé sur divers fronts. Alors Michel Vetter est notamment vice-président de l'Institut international de droit humanitaire de San Remo. Il est professeur associé à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, ainsi qu'à Webster University de Genève. Il est membre du conseil de fondation de la Martin Ennals Awards for Human Rights Defenders. Il est président du Cercle des Amitiés Internationales de Genève. Tu t'en souviens? Il est membre de l'Association Helvétique de l'Ordre de Malte. Michel Vetter a écrit de nombreux articles sur le droit et sur l'action humanitaire. Il est l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule « Guérilla et droit humanitaire » publié par l'Institut Henri Dunant en 1976. Alors, pour Michel Vetter, j'ai trouvé une phrase de Baudelaire qui dit ceci: « Il faut encourager les hommes à trouver la frénésie journalière. » Une frénésie que Michel Vetter incarne avec son enthousiasme légendaire au quotidien. Michel Vetter, à toi la parole.
Merci. Merci Jean-François. Mais puisque tu parles de diplomatie humanitaire, j'aimerais rendre un hommage à mon maître dans ce domaine, qui était Dominique Mickey. Voilà, Madeleine est ici. J'aimerais vraiment qu'elle sache que c'est grâce à Dominique que j'ai appris mon métier. Et c'est comme ça que les choses aussi se transmettent d'homme à homme et qu'on apprend à devenir un peu plus modeste, un peu plus à l'écoute, et justement à l'écoute, pas simplement parce que Dominique était pasteur, il avait une formation théologique, mais à l'écoute de tous. Et donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on ne doit pas oublier que le droit humanitaire, c'est quelque chose qui a de très profondes racines. Ces très profondes racines, je dirais par exemple, je vais commencer par citer, c'était pas un théologien, c'était Montesquieu quand c'est un philosophe, mais je pense que ce que Montesquieu disait là, le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible sans nuire à leurs véritables intérêts. C'est une très belle formulation qui nous rend fiers d'être francophones, mais c'est aussi quelque chose, si on veut vraiment le mettre en pratique, je pense qu'il faut avoir un ancrage spirituel. Et cet ancrage spirituel, c'est véritablement, il peut être de diverses sources. Et donc je vais vous dire d'abord que les sources sont évidemment historiques. C'est une somme d'expériences. Mais les sources sont aussi anthropologiques. Toutes les civilisations, c'est-à-dire la nature de l'homme, où qu'il soit, à toutes les époques. Et puis les sources modernes, parce que quand on parle de droit international public aujourd'hui, on parle tout de suite du droit positif. Et je dis oui, c'est vrai, c'est du droit positif. Mais il faut savoir que ce droit positif aussi s'ancre dans cette réalité spirituelle. et que souvent, ce sont d'autres qui vont nous le rappeler. Parce que nous, Européens, nous, chrétiens, nous avons une certaine honte, une certaine gêne à réaffirmer nos racines religieuses. Alors, n'ayons pas honte, parce que je crois que justement d'autres vont nous apprendre. Donc, comme le rappelait Cornelio Sommaroga ce matin, effectivement, c'est des religieux qui, dans l'Europe, au moment où l'Europe découvrait les Amériques et découvrait qu'il y avait d'autres êtres humains, et c'était un peu la même, je dirais, la même approche, le même choc que si on débarquait demain sur Mars et on découvrait des Martiens. Eh bien, vous auriez les gens qui diraient, mais est-ce que ces Martiens ont vraiment une âme? Et vous devriez peut-être répondre à cette question. Bon, je n'en sais rien. Mais vous voyez, donc, vous avez des gens que citait ce matin Cornelio Sommaroga, comme Vittoria, Suarez, mais aussi Aimer de Vatel, qui était un protestant de Neuchâtel, comme tout le monde le sait. Eh bien, Aimer de Vatel qui rappelait la dignité inhérente à tout être humain, à l'image de Dieu, qui nous a tous créés. Alors, après, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit aussi, et là aussi Cornelio, tu le citais ce matin, que la règle d'or, on pense toujours que c'est une règle chrétienne. Oui, c'est vrai, le Christ l'a formulée de manière positive, mais dans beaucoup de civilisations, on la trouve de manière négative. Ne faites pas aux autres ce que vous n'auriez pas qu'ils vous fassent. Bien, vous voyez, on trouve ça dans l'hindouisme, dans le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme, le zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam et le bahaïsme. Bon, pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez eu un État civilisé comme les États-Unis, qui à un moment donné a changé la définition de la torture, eh bien, je pense qu'on pourrait leur opposer la règle d'or. Qu'est-ce que c'est la dignité humaine? C'est ce que vous voudriez recevoir, c'est ce que je voudrais recevoir, et c'est inscrit dans chaque être humain. Donc, il faut, justement, corriger, je dirais, les pièges du droit positif par des références à un droit naturel qui est inscrit dans tous les êtres humains, dans toutes les civilisations. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le droit de la guerre, autrement dit droit humanitaire, c'est pas simplement le droit de tuer. C'est surtout le droit de survivre. De survivre en tant que population civile, parce que la population civile doit être respectée. De survivre en tant que prisonnier qui se rend. De survivre en tant que blessé qui est hors combat. Et c'est la base. Là, c'était un juriste français, Henri Merovitz, qui avait écrit ça sur le principe du droit de la guerre. Et je crois que c'était profondément vrai. Et c'est profondément vrai parce que, justement, le droit humanitaire a commencé par des règles sacrées, je dirais même des tabous. Et le tabou n'est pas toujours ce qu'on croit, mais le tabou, justement, c'est une règle qu'on punit de mort parce qu'elle met en péril la survie de la population, la survie du groupe, la survie de la tribu, la survie de la civilisation. Et donc, vous voyez, là, on a des règles comme ne pas s'attaquer aux femmes, ni aux enfants, ne pas détruire les récoltes ou les arbres fruitiers, ne pas empoisonner l'eau, ni détruire lieux et édifices sacrés. C'est pas complètement impertinent aujourd'hui, hein? Et vous voyez donc que si on arrive à retracer, à montrer que ces racines vont vraiment dans les profondeurs de l'histoire, même dans les profondeurs d'un passé dont on n'arrive plus à dire qu'il est historique, je pense qu'elles sont beaucoup plus fortes. Maintenant, vous voyez, tribus africaines, et oui, évidemment, là aussi, elles ont encore. Alors, de temps en temps, on vous dit, désolé, maintenant, vous savez, la civilisation moderne, les armes modernes, etc., l'intervention de puissances extérieures font que, malheureusement, ces coutumes traditionnelles se sont perdues. Je dis oui, mais elles existent encore. Elles existent encore. Et là, de nouveau, ce sont des coutumes qui sont largement fondées sur des convictions religieuses. Alors, ce qu'il faut dire après, c'est que il y a des îles d'humanité. Qu'est-ce que c'est une île d'humanité? C'est de dire exactement comme disait George W. Bush, oui, il y a des gens qui ne sont pas des êtres humains parce que ce sont des terroristes. Donc là, vous excluez toute une série de gens. Et là, encore une fois, je dis que malheureusement, un des grands esprits d'humanité, le philosophe grec Platon, que vous avez tous lu bien sûr, à un moment donné, disait, il y a des règles qu'on observe quand on fait la guerre entre cités grecques, mais quand il s'agit des Perses, il n'y a plus rien qui tienne. Grâce à Dieu, on n'est pas arrivé à cette répétition de l'histoire il y a quelque temps. Mais, donc, c'est pour dire que ces îles d'humanité, vous les trouverez, pas seulement en Perse. Pourquoi j'ai rajouté la Perse ici? C'est parce que, il y a quelques mois, j'étais à Téhéran, invité par le CICR d'ailleurs aussi, et j'avais mentionné toute une série d'autres civilisations. Et quelqu'un au fond de la salle est sauté en l'air à la fin de mon discours pour dire « Comment osez-vous oublier la tradition perse ?» C'est Cyrus qui a inventé les droits de l'homme. Bon, je reviendrai là-dessus. Mais pour vous dire que donc, vous avez les peuples premiers, les papous, qui ont les règles que je vous ai dites tout à l'heure, qui ont ces règles justement pour la survie du peuple papou. Vous avez certainement aussi en Chine des règles analogues, une forte civilisation chinoise qui se tient et qui se considère elle aussi centrale, mais vous avez aussi des experts militaires comme Sun Tzu, qui eux, purement et simplement, disent « faites un pont d'or à l'ennemi qui se rend », ça c'est l'efficacité militaire parce que ça vous coûtera moins cher de leur laisser la vie sauve et plutôt que de voir les combattre jusqu'à la dernière de leurs cartouches. Et Mao Tse-tung a fait ça avec les armées de Chiang Kai-shek. Mais après, vous voyez que l'Inde aussi. L'Inde, si vous alliez au musée de la Croix-Rouge, vous verriez qu'il y a une belle photo d'une stèle d'Ashoka. Ashoka, c'était un empereur indien, et qui, après avoir fait beaucoup de guerres, c'est mis à dire, voilà les leçons que je voudrais tirer de toutes les guerres, et parmi ces leçons, il y avait effectivement toute une série de règles humanitaires. Vous verrez aussi, et je vais le mentionner tout à l'heure, que, évidemment, dans la Bhagavad Gita, ou le Mahabharata en général, vous avez toute une série de règles très précises sur le droit de la guerre. Et, ensuite, la Grèce, ben oui, mais je vous ai mentionné l'attitude de Platon, qui est donc là, qui s'estimait comme une civilisation fermée en elle-même, et tous les autres, non seulement des barbares, mais des gens qui n'avaient pas la même le droit, la même dignité, et aux mêmes égards que les citoyens des cités grecques. Le judéo-christianisme, je pense que c'est évident que le judéo-christianisme, lui aussi, a connu des règles de solidarité, des règles de limitation dans la guerre, mais aussi, comme les paysans suisses le savaient contre les chevaliers autrichiens, que ces règles ne s'appliquaient en général qu'entre gens de la même caste guerrière. Et que jeu de main, jeu de vilain voulait dire que le vilain n'avait droit à rien. Donc, le paysan suisse non plus, c'est pour ça qu'il se battait avec des cailloux, tandis que les autres venaient en armure et à cheval. Bon, l'islam aussi connaît des règles, bien sûr. Et il faut bien voir qu'il y a eu des gens qui ont fait les ponts entre ces îles. Or, c'était Salah al-Din. Lui, il a épargné quelques-uns des chevaliers qu'il avait capturés en Terre Sainte. L'autre, c'était Saint François d'Assise. Voyez ça, il a traversé les lignes en Égypte pour aller parler au sultan d'Égypte. Il a dit, je ne suis pas venu pour vous casser la tête comme mes compatriotes. Je suis venu pour engager un dialogue avec vous. Eh bien, je crois qu'on devrait se rappeler ces gens qui ont fait les ponts, voir que nous avons encore la possibilité de faire cela. L'Afrique, bien sûr, j'ai mentionné tout à l'heure ses coutumes. Bernard Kouchner, parlons-en. quand il était au Biafra, la guerre civile du Nigeria, était très fier. Il disait, voyez, moi, médecin français, je viens pour aider ces pauvres enfants africains qui ne sont pas aidés par leurs compatriotes. Vraiment, je suis un bon garçon. C'est vrai qu'il a fait des choses remarquables. Hein. On ne va pas critiquer quoi que ce soit de notre cher ami commun. Mais Ali Mazboui, un professeur africain qui était aux États-Unis, a dit, Bernard, peut-être que vous avez raison. Mais moi, je ne mettrai jamais ma mère ni ma grand-mère dans un asile de vieillards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de faire les malins et de vouloir imposer nos règles, il faut que nous sachions apprendre les uns des autres. Qu'il y a des valeurs de solidarité qui sont différentes, mais que ces valeurs de solidarité mériteraient d'être émulées. Alors, je vous parle du droit humanitaire, mais Ali Mazboui, en parlant de la mère de Bernard Kouchner ou sa grand-mère, il n'était pas complètement au sujet. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici? La petite ligne rouge, c'est le droit international humanitaire. C'est les conventions de Genève. Vous voyez, c'est beau, c'est lisse, c'est universellement ratifié. Et, encore une fois, ça vaut la peine de souligner qu'effectivement, ça vient autant de l'Afrique, de la Grèce, de l'Inde, des peuples premiers, de la Chine, de la Perse, de l'islam, que du judéo-christianisme. Mais, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas simplement, c'est pas à sens unique. Et que précisément, on voit que ensuite, et c'est là aussi où le CICR, pas toujours penser que le CICR ignore la réalité des choses, je le dis aussi à mon ami Olivier, c'est vrai, le CICR a engagé depuis de nombreux, enfin depuis quelques années en tout cas, un dialogue avec l'islam. Un dialogue avec l'islam, et ce dialogue, c'est un dialogue qui n'est pas avec les facultés de droit. C'est un dialogue avec les mosquées et les madrassas. Les écoles coraniques, pour parler français. Donc, et pourquoi? C'est pour précisément convaincre ces pays musulmans dans lesquels, comme le disait ce matin Cornelio Somaroga, le CICR a pratiquement le 70% de ses activités, que non seulement le CICR, mais aussi les conventions de Genève, sont compatibles avec les traditions religieuses musulmanes. Et que c'est seulement à travers ce dialogue, qui est d'ailleurs mené la plupart du temps par des délégués musulmans arabophones, que le CICR peut convaincre qu'il n'est pas là, à la solde de qui que ce soit, en train d'imposer des normes d'une autre civilisation et de faire un travail mystérieux qui serait parfaitement contraire, étranger à leur tradition profondément spirituelle. Donc je crois que l'exercice d'aller-retour, de montrer qu'effectivement les conventions de Genève viennent aussi de l'islam. On peut penser là aussi à Abdelkader, qui était un soufi extraordinaire, algérien, comme tout le monde le sait, mais qui avait... Mais après, c'est évident qu'on risque de devoir faire le même exercice, peut-être demain, avec des Indiens, des Hindous. On risque peut-être de faire le même exercice avec des Chinois. Parce que les Chinois, aujourd'hui, par exemple, sont très fiers de leur tradition confucéenne. Et donc de leur montrer que effectivement le droit international humanitaire n'est pas contraire, mais bien au contraire, si je peux dire, tout à fait compatible avec la tradition chinoise, est quelque chose d'extraordinaire. Alors après, quand je vous dis la survie de la tribu à la survie de l'humanité entière, pourquoi? Parce que la survie de la tribu, tout le monde comprend que si on empoisonne le puits dans lequel tout le monde vient boire, on est tous perdants. Hein? Ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, le puits, il est peut-être un petit peu plus large, mais on pourrait aussi l'empoisonner assez facilement. Ce que j'oublie aujourd'hui, c'est que si on pratique un massacre au cœur de l'Afrique, ça peut donner de mauvaises idées dans les Balkans. et sans avoir d'armes de destruction massive. Donc, d'assurer un respect de ce droit humanitaire partout dans le monde est nécessaire pour la survie de l'humanité entière. Alors, maintenant, voyez, l'Asie, bien sûr, le Bushido japonais, bien sûr, allez voir les films de Kurosawa, mais enfin, c'est une autre affaire, mais il y a certainement des choses qui sont là. Le bouddhisme, avec Maitri, bienveillance, et Karuna, miséricorde, compassion, très proche de l'humanité. Les lois de Manu, alors là aussi, les lois de Manu, encore une fois, c'est pas la perfection, parce que vous avez aussi la justification du système des castes. Mais ce que je dis, c'est que dans les lois de Manu, vous avez aussi des lois qui donnent un traitement généreux à l'humanité, aux blessés, aux malades, aux prisonniers. Maintenant, tribus africaines, oui, je vous l'ai déjà mentionné. Alors donc, la survie des tribus, fondée sur un droit sacré, et là aussi, si dans la cité antique, fût-elle le coulant, je dis bien, le droit est fondé sur des traditions religieuses. Mais aujourd'hui, la survie de l'humanité, c'est une norme de droit positif, mais de nouveau, qui ne sont pas nécessairement en contradiction, et surtout le droit humanitaire, les droits de l'homme, ça peut être une autre affaire, mais qui ne sont pas nécessairement en contradiction avec leurs origines spirituelles. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que même dans le droit positif international, on fait référence. Parce que le droit positif d'aujourd'hui, effectivement, énonce ses sources, les traités, les décisions des tribunaux, la pratique des États, mais là aussi, l'article 9 du statut de la Cour dit bien, il faut assurer dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. En 45, on pensait probablement au droit continental et au droit anglo-saxon. Donc, le droit occidental. Maintenant, le juge Wiramantri, qui est du Sri Lanka, dit, écoutez, il faudrait penser un petit peu plus loin, ou peut-être même reculer un peu plus dans l'histoire, et puis penser aux textes sacrés de l'Inde, le Ramayana et la Mahabharata, les deux interdisant des armes de destruction massive. Et il le disait dans l'avis consultatif sur les armes nucléaires. Donc vous voyez, c'était pas un article comme ça dans un bulletin paroissial, ou dans l'avis protestant. C'était un avis, une opinion dissidente peut-être, mais un avis dans la plus haute instance judiciaire internationale. Donc, les sources modernes, évidemment, c'est des tragédies collectives. Je dirais parce que, malheureusement, ce qu'il faut bien dire, c'est que ce n'est pas les juristes modernes, ni même les bons cœurs de la Croix-Rouge qui ont inventé les conventions. Ils ont été des instruments, mais je dirais ils ont été écrits dans le sang des victimes. Et ce sang des victimes, c'était d'abord Solferino, où là aussi, le bon curé de Solferino a joué un rôle, puisque... et qui a ouvert son église pour en faire un hôpital de fortune. Là aussi, les dames de Lombardie ont donné un coup de main, et probablement qu'elles étaient motivées par la même motivation chrétienne qu'Henri Dunant, même si elles n'avaient pas la même église. Mais et puis, Tsushima, naufragé. Et là aussi, on voit, c'est un choc de civilisation. Tsushima, 1905. La flotte russe va de Saint-Pétersbourg à la mer du Japon, pour soi-disant battre les Japonais qui étaient en train d'assiéger Port Arthur. Elle se fait battre. Choc dans l'opinion publique occidentale, c'est la première fois que l'Occident subit une défaite. Et donc, on réalise qu'effectivement, il faut étendre aux naufragés le bénéfice des garanties humanitaires qu'on avait offertes aux blessés de la guerre sur Terre. Prisonniers de guerre, là aussi, on voit bien, c'est les centaines de milliers, voire les millions de prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale qui amèneront à la protection de la ce qui est aujourd'hui la troisième convention. La quatrième, là aussi, vient après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste, des territoires occupés, pas simplement en Europe, hein, parce que la Chine a été victime aussi d'une occupation assez sévère. Et là, on voit qu'effectivement, on a un sursaut d'humanité, et que là, ce droit humanitaire, sous l'impulsion, je dirais, de toute une série de gens, exactement, c'est une année après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ben oui, vous aviez René Cassin, bien sûr, mais vous aviez Mme Roosevelt, mais vous aviez aussi un Libanais, vous aviez aussi un Chinois, et dans ces... Il y a eu, je dirais, une filiation entre 48 et 49. Une inspiration. Et là, en 49, véritablement, les conventions de Genève sont sorties du privilège des forces armées, des combattants, du corporatisme des combattants, et pour s'étendre à l'ensemble de populations civiles. Pas complètement, parce qu'ils n'ont pas interdit les bombardements, parce que les alliés avaient malheureusement aussi recouru à ce type d'attaque indiscriminée. Et ensuite, on voit, c'est seulement avec les images tragiques des attaques contre les civils au Vietnam qu'on voit arriver les deux protocoles additionnels de 77-77, deux ans après d'ailleurs les accords qui ont mis fin à la guerre. Yougoslavie-Rwanda, là aussi on voit que c'est uniquement après l'échec d'ailleurs d'opération au maintien de la paix que le Conseil de sécurité instaure ces instances, ces tribunaux pénaux internationaux sur l'ex-Yougoslavie, tribunaux pénaux internationaux sur le Rwanda, et en 1998 la Cour pénale internationale. Mais là je dirais, vous me direz, il a perdu le spirituel. Non, parce que je vous dirais qu'après c'était bien de mettre là les tribunaux pénaux, mais que précisément là on voit le besoin d'un complément spirituel, que de dire la justice suprême c'est la justice d'un tribunal pénal international, c'est un peu court. Et on le voit même maintenant, on a presque l'impression que c'est le Cour pénal international, justement faute de résultats, faute d'un ancrage dans la conscience publique, risque malheureusement quelques soubresauts. Alors, maintenant, j'aimerais passer aux principes. Ce matin, on a parlé des principes. Je persiste à croire, excusez-moi, ça c'est des petits dessins personnels, mais persiste à croire qu'il y a dans la croix plus que la croix. Je m'explique. Bien sûr, la croix suisse vient de la croix du Christ. Bien sûr, la croix rouge vient de la croix suisse. Et quand vous allez au Tibet, et que vous voyez un tanka tibétain, vous voyez le même motif. Quand vous allez voir les Indiens d'Amérique du Nord, avant même qu'ils avaient rencontré le moindre missionnaire, vous voyez une croix, les quatre vents. Eh bien, je persiste à croire qu'effectivement, le principe d'humanité, il est inscrit dans ces cinq carrés. Ces cinq carrés... La tête, les deux bras, les deux jambes, les cinq, etc. Et qu'après, vous pouvez continuer avec l'universalité. Le nord, l'est, l'ouest et le sud. Ça, c'est une universalité que tout le monde comprend. Encore une fois, dans la croix, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour y croire. Hein. Et puis, la neutralité. Alors, la neutralité, excusez-moi, vous voyez, l'Occident a horreur du vide. Ce qui n'est pas le cas des Chinois, par exemple, qui vous diront, mais vous savez, la roue, sans le moyeu de la roue, ce n'est pas une roue. Et là, ce que vous voyez, cette neutralité, c'est le carré vide. Parce qu'il appartient à personne, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Et que ce n'est pas simplement une neutralité d'exclusion, mais que c'est au contraire une neutralité de disponibilité et de service. Mais que pour ça, vous devez être en contact avec tout le monde. Après, il y a encore une petite chose qui bien qui vous échappe peut-être parce que tout au fond, vous ne voyez pas, il y a un petit point au centre. Et ce petit point, ça me rappelle une histoire hassidique que racontait Martin Buber et qui disait, oui, un jour l'adversaire, c'était un rabbin qui racontait à son fils, un jour l'adversaire vient dans une école et pour détruire l'école, il ne touche pas les murs, il ne touche pas les professeurs, il ne touche pas les élèves. Mais juste, il y avait un petit point au centre et l'autre, ce petit point, et l'école va à sa perte. Et là, le petit point qui est ici, c'est le point qui est au cœur du cercle. Et l'impartialité, c'est un devoir, je dirais presque physique. Si vous commencez à tourner, et la Croix-Rouge et le droit humanitaire sont dans un tourbillon perpétuel. Et le seul endroit où vous pouvez être stable, c'est à équidistance du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Parce que si vous vous en écartez, vous êtes éjecté. Alors, maintenant... Excusez-moi, c'est... Alors, maintenant, je voulais juste vous dire... Là, évidemment, ce que... Après, je vais juste encore ajouter une petite chose dans les 3 minutes qui me restent. Mais je pense que Martin Luther King nous donne peut-être aussi... une manière de voir les choses. Et quand il dit d'apprendre à vivre comme des frères et des sœurs ou de mourir comme des insensés, je pense que c'est pas simplement au sein de la même famille et même pas au sein de la même famille spirituelle, mais je pense que c'est véritablement avec toutes les familles spirituelles et y compris avec les mécréants. Donc, je pense qu'effectivement, et là aussi j'aimerais dire qu'effectivement, au CICR, nous avons beaucoup travaillé, peu partagé la même foi, il y en a même qui avaient des opinions diamétralement opposées, je ne vais pas dire lesquelles, mais ça ne nous a pas empêché de tirer le même camp. Hein. Et je pense que c'est ce qu'il faut voir aujourd'hui. C'est ce qu'il faut voir, comment nous pouvons trouver les moyens de vivre ensemble comme des frères et des sœurs, parce que sans cela, nous sommes véritablement en train de courir à notre père. Alors, mais je voulais juste quand même vous faire encore une autre chose. C'est que je pense qu'une des contributions de spirituel aujourd'hui, c'est précisément d'aller au-delà du droit, d'aller au-delà de la justice. Et c'est d'instaurer la justice restaurative. C'est d'instaurer justement ces commissions vérité et réconciliation. Et qui souvent permettent de terminer des conflits où il y a eu des violations monstrueuses du droit humanitaire, pas seulement en Afrique du Sud, au Guatemala et dans d'autres endroits. Et là, on voit que par exemple, même en Afrique du Sud, c'est évident, tout le monde sait que l'archevêque Desmond Tutu, anglican, a été des architectes non seulement de la constitution, mais aussi du fonctionnement, et même après qui a réussi à convaincre le gouvernement sud-africain d'accepter le rapport difficile de cette commission. Au Guatemala, je vous mentionnais, au Guatemala, vous avez eu aussi un archevêque catholique, d'ailleurs qui a été assassiné après, et un pasteur protestant, et un israélite qui était un avocat des droits de l'homme. Eh bien, je dirais, voilà, ça, c'est des exemples. Pourquoi c'est des exemples? Parce qu'on se rend bien compte que la nécessité n'est pas la justice des vainqueurs Nuremberg-Tokyo, qui était probablement nécessaire, mais évidemment très imparfaite, caricaturellement imparfaite, ni une amnistie générale, comme on a eu dans tout le conflit de décolonisation, la fin de l'Empire soviétique, mais justement de reconstruire des communautés autour de l'établissement de la vérité et du pardon mutuellement accordé. Alors, voilà, c'est sur ce pardon qui n'est pas simplement celui, parce que souvent on dit qu'il n'y a que les chrétiens qui sont d'accord d'accorder le pardon. Non, nos amis musulmans connaissent aussi le Dieu miséricordieux. Même souvent, ils l'invoquent au début de chacun de leurs discours. Et je pense que même nos amis israélites ont cette conscience aussi de la miséricorde, à commencer par ces, je dirais, quand il y a au bout de 49 ans, toutes les dettes sont effacées. C'est incroyable, c'est des choses qu'on ne connaît plus. Mais donc je pense que ce que je voulais vous laisser avec ce droit humanitaire, c'est de dire, nous avons maintenant, je crois, un droit humanitaire qui soit a été tiré vers une émotion, soit tiré vers une technicité, et je pense qu'il faut le recentrer sur des valeurs. Et qu'à mon avis, ce sont des valeurs d'humanité, et je pense, à titre de croyant, que c'est spécialement des valeurs d'humanité fondées sur un Dieu créateur et des hommes et des femmes qui sont des frères, parce que nous dépendons tous de ce Dieu créateur, non seulement pour notre naissance, mais aussi pour toute autre existence, qui nous permettra aussi de faire appliquer et de mieux comprendre, et encore une fois, un droit qui n'est pas simplement un droit du CICR, mais qui est un droit qui permettra, espérons-le, la survie de l'humanité à travers les conflits qui, hélas, sont trop fréquents. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Michel. Quelques minutes de réaction, de questions de la part de la salle.
Merci Olivier Dunan. Qui sont les garants de ce respect du droit humanitaire?
Non, c'est une très bonne question, comme on dit. Les garants, d'abord c'est les États. C'est les États individuels, mais c'est les États aussi en tant que communauté internationale. Parce que précisément, je pense qu'une des caractéristiques du droit humanitaire, c'est que ce n'est pas un droit bilatéral, si vous voulez. Ce n'est pas un contrat où je vous achète votre pétrole et je vous vends mon chocolat ou mes machines outils. Vous voyez, ça, c'est une autre affaire. Donc on considère que ce droit humanitaire est un contrat envers l'humanité. Alors, donc avec ça, vous avez les États individuels qui ont la responsabilité de respecter et de faire respecter. Ce deuxième terme demandant à la fois de s'abstenir de promouvoir des violations, par exemple vous soutenez des milices dans un pays que je ne nommerai pas ici, vous devriez faire attention à ce qu'ils ne commettent pas tout et n'importe quoi. Et puis ensuite un droit, un devoir d'action, de faire cesser des violations. Vous avez un allié qui construit un mur sur le territoire d'un autre, vous devriez le prier de détruire le mur, ou de compenser les gens sur les territoires desquels il a construit ce mur. Après, il y a évidemment aussi le CICR. Mais alors là, le CICR, lui, agit par persuasion. Et Olivier Vaudeau pourrait vous en parler mieux que moi, mais je pense qu'effectivement, c'est une grande force, cette persuasion. Parce que, et puis après, vous avez les Nations Unies qui, elles aussi, de plus en plus, prennent, la mise en œuvre du droit humanitaire dans différents organes, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit l'Assemblée générale, que ce soit le Conseil des droits de l'homme. Et puis aussi, il y a toute une série de rapporteurs spéciaux, y compris sur le droit à la faim, le droit à l'eau, le droit, par exemple, pour faire respecter l'interdiction des exécutions sommaires, un professeur sud-africain, Chris Heinz, a dénoncé en disant, mais vous voyez, les drones sont une violation du droit à ne pas subir une exécution sommaire. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi la conscience publique. Et la conscience publique, là de nouveau, j'en reviens aux dirigeants spirituels. Parce que la conscience publique, elle est incluse dans une clause qu'on appelle la clause de Martens. C'était un juriste russe qui, en 1907, a eu l'idée, quand il y avait un blocage, il a dit, mais dans les cas non prévus par le droit, les populations et les victimes de la guerre en général restent sous l'empire des droits des gens tels qu'interprétés par la conscience publique. Et la conscience publique, je persiste à croire que ce n'est pas CNN, ni même RFI, ni même Le Monde, ou Le Temps, mais que c'est plus large. Et que c'est pas simplement le bon pape François, mais que c'est peut-être notre ami Bill, le président de l'appel perpétuel de Genève. Oui, c'est l'ensemble je dirais, des gens qui ont à cœur de s'exprimer pour faire cesser des violations. Et cette conscience publique, encore une fois, elle s'exprime pas simplement par des appels publics, mais je peux vous dire qu'une fois, c'était en 83, donc une vieille histoire, mais j'ai eu l'occasion d'aller avec Jean-Pierre Roquet, qui était à ce moment-là directeur des opérations, voir Jonas Savimbi. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'était le président de l'UNITA. On était le voir dans le sud de l'Angola, et là, on a amené deux lettres. Et une lettre, c'était du professeur Ribben de Lausanne, peut-être vous avez entendu parler de lui. Eh bien, professeur Ribben avait eu Jonas Savimbi comme élève. Donc, quand Savimbi, du haut de sa hauteur, où il disait, écoutez, je ne peux pas modérer l'enthousiasme révolutionnaire de mes troupes, lit un petit mot disant, cher Jonas, écoute bien ce que vont te dire ces braves gens. D'accord. Bon. L'autre chose, c'était Chester Crocker. À l'époque, il était responsable des affaires américaines à Washington. Chester Crocker, c'est lui qui donnait l'argent, le soutien politique, plus, bon, encore quelques armes et d'autres. Inutile de dire que quand Chester Crocker, quand il est là, Chester Crocker, il est devenu beaucoup plus raisonnable. Et donc, je pense, il y a des moyens de convaincre. Et quand on dit, non, mais regardez ces gens qui se battent là-bas au cœur du Congo, ou ces gens qui se battent au milieu du désert, etc. Vous savez, on sait très très bien où ils sont, on sait très bien qui les finance, qui les arme, et peut-être si ceux qui savent où ils sont, ceux qui savent qui les finance, ceux qui savent qui les arme, voulaient bien mettre un petit peu de modération dans leur attitude, on aurait tout de suite de grands progrès. Et puis après, l'exemple, c'est l'exemple la semaine dernière, au Congo, le M23, qui a massacré allègrement, violé, etc., des populations congolaises, en étant eux-mêmes des Congolais, tout d'un coup ont retrouvé la raison, parce qu'il y a eu quelques bonnes âmes qui ont pensé qu'après tout, l'armée congolaise devrait quand même faire son travail. Donc, il y a eu une opération de maintien de la paix qui a été véritablement une opération vigoureuse. Oui. Donc, la communauté internationale a les moyens, quand elle le veut, de faire respecter, même par la force, ce droit humanitaire, de protéger les populations civiles et de mettre fin à des bandes d'assassins.
Merci, Michel.
Merci, Cornelio Sommaruga. Merci, Michel, pour ce magnifique plaidoyer pour le droit international humanitaire que tu as fait. Moi, j'ai souvent eu, comme président du CICR, des questions de ce genre sur la mise en œuvre. Et j'avais une réponse assez brève. C'est ce qu'il y a écrit sur l'hôtel de ville de ma commune d'origine, la ville de Lugano. Il est dit « In legibus libertas, quid leges sine moribus et fides sine operibus ?» Et je le traduis « La liberté est dans les lois ». Que sont les lois sans bonne conduite et la confiance sans engagement?
Magnifique. Alors, c'est bien. Il y a encore un autre élément. Je vais juste répondre. Le droit, il ne faut pas le réduire à des institutions, à des mécanismes, à des textes. Le facteur humain des hommes et des femmes qui, effectivement, seront convaincus et feront passer ces messages. Ou entendront ces messages. Oui.
Moi, je viens d'entendre un message là, dans la réponse que vous avez faite sur la question de la mise en œuvre, qui est même la force peut être utilisée pour la mise en œuvre du droit international. Pourriez-vous nous dire dans quelles conditions et jusqu'à quel niveau d'intensité?
Attends, je vais prendre le problème. Écoute, moi je dis, alors, j'étais encore jusqu'à jeudi soir à l'Académie navale brésilienne, et effectivement, ils m'ont posé cette question. J'aurais dit, mais écoutez, c'est évident qu'on doit pouvoir utiliser la force, mais que votre premier devoir sera de respecter le droit que vous allez faire respecter. Donc, que vous devrez respecter la distinction entre combattants que vous pourrez attaquer et civils que vous devrez en tout cas respecter, Que peut être la proportionnalité? Donc d'utiliser les moyens qui feront le moins de pertes possibles collatérales civiles, et puis que si vous capturez des prisonniers, il est évident que vous allez les traiter le plus humainement possible. Sans cela, je dirais, j'aimerais citer Camus, là, qui disait « Défendre une vérité en veillant à ne pas la tuer, les armes mêmes dont on la défend. » Et c'était dans l'actuel, donc en plein dans la guerre d'Algérie. Et comme tu sais, il était plutôt tiraillé. Hein. Mais donc je pense que, bien sûr, il faudra que ce soit en conformité avec la charte des Nations Unies, parce que sans cela, je dirais le piège de l'intervention humanitaire est tout de suite là. Souvent là que ce soit en conformité, encore une fois, avec le droit humanitaire. Et puis si le droit humanitaire, disons-nous, n'est pas applicable, eh bien, il y a quand même des principes généraux. Et là, encore une fois, je reviens à la clause de Martens, je reviens à la règle d'or. C'est pas parce que on est au Timor oriental et qu'on se dit est-ce que c'est vraiment le droit indonésien ou est-ce que c'est encore le droit portugais ou est-ce que ce serait parce qu'on est australien, c'est le droit australien. Je dis écoutez, là il y a des règles d'humanité fondamentales et puis vous devriez pouvoir traiter les prisonniers que vous capturez sans avoir même à leur donner une étiquette juridique, mais ils sont purement et simplement des hommes et des femmes qui doivent être traités humainement.
Merci Michel Vetter, on peut l'applaudir encore et le remercier. Je crois que vous avez bien compris la logique de cette journée. On est parti de la Genève du 19e siècle, le bouillonnement spirituel, culturel. On s'approche progressivement des temps présents et Michel nous y a admirablement introduit. C'est maintenant François Dermange, professeur d'éthique à la faculté de théologie de Genève, qui va intervenir. Je ne vais pas vous citer toutes les publications de François, elles sont longues comme mes deux bras, mais peut-être vous signaler l'un des derniers projets dont il est à la fois contributeur, auteur, réalisateur, c'est le cours public MOOC qui est en ligne et qui donne finalement une information, des cours sur le personnage de Jean Calvin, extrêmement bien fait et je peux vous dire qu'il y a déjà plus de 10 000 inscrits sur ce cours dans le monde entier. Vous pouvez aussi le rejoindre et ce sera une manière aussi de voir François évoquer la figure de Jean Calvin dans la cathédrale Saint-Pierre. Mais en attendant, merci d'être à l'auditoire.
Merci beaucoup pour ces mots d'introduction très gentils. Donc, ce que je voudrais faire avec vous, c'est pas simplement de réfléchir à l'actualité, c'est d'essayer de retisser un fil. Et un fil sur trois grands moments où la théologie, et la théologie réformée en particulier, a parlé de ce concept d'humanité. Pour essayer de voir, eh bien, qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui. Alors vous verrez que ça va retisser des liens, parfois recroiser des choses qui ont été dites durant cette journée, mais ce ne seront pas tout à fait des redites, je l'espère. Ces trois grands moments, eh bien, c'est Calvin précisément. On est ici dans l'auditoire Calvin, là où Calvin a enseigné. Et je voudrais essayer, parce qu'au fond c'est assez peu connu, et je pense que ça peut être très éclairant aussi pour comprendre les motivations qui ont été à l'origine de la création du CICR, comme de beaucoup d'autres œuvres qui sont nées de cette tradition religieuse. Donc Calvin d'abord. Et puis le 19e siècle, où je prendrai non pas le CICR, mais un autre épisode qui a aussi marqué Genève, comme vous le verrez, qui est la réaction des entrepreneurs protestants de Mulhouse au 19e siècle. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de réaliser? Et puis, enfin, Albert Schweitzer, il y a tout juste un siècle, pour voir qu'est-ce que lui dit et pense de l'humanité. Et puis j'en viendrai en conclusion à la situation tout à fait contemporaine aujourd'hui. Alors Calvin tout d'abord. Calvin, vous le savez, ne veut pas penser l'éthique à partir de l'homme, mais à partir de Dieu. Ce n'est pas ce que l'homme pense, ressent, cherche à comprendre de lui-même ou à se faire comprendre qui l'intéresse, parce que pour lui, ça ne peut pas signifier véritablement le sens de la vie humaine, mais il s'agit d'entendre le commandement de Dieu, la parole de Dieu. Simplement, si Dieu veut chaque fois la même chose pour l'homme, il veut la vie, la manière dont l'homme le comprend n'est pas une parole de Dieu, mais au moins trois paroles de Dieu. Pourquoi trois paroles de Dieu? Parce que moi-même, François Dermange, je suis à la fois un homme, un humain, comme n'importe quel autre humain, un chrétien, ou du moins quelqu'un qui essaye d'être un chrétien, et puis celui que je serai pour l'éternité, que je ne connais pas encore. Dieu s'adresse à moi à la fois comme humain, à la fois comme chrétien, et à la fois comme quelqu'un qui est appelé à la sainteté et à la vie éternelle. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Calvin dit de l'humain. Le terme d'humanité, eh bien, est lié justement à l'humain. Qu'est-ce que l'homme peut comprendre comme humain? Après, il y aura ce qu'il pourra comprendre comme chrétien. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce premier volet. Or ici, pour Calvin, contrairement à une image qui est assez répandue, Calvin ne défend pas du tout que ce soit simplement par la Bible, par l'Écriture sainte, que l'être humain entende quelque chose de Dieu. Au contraire, il pense, et là il s'enracine dans une grande tradition philosophique, il pense que l'être humain est un animal sociable, animal grégaire, qui ne peut vivre qu'en société, et pourtant, à la différence de tous les autres animaux grégaires, comme les moutons ou comme les fourmis, l'homme ne peut pas se fier simplement sur son instinct pour cela. Au contraire, pense Calvin, s'il n'y avait que l'instinct, eh bien, il se passerait entre les êtres humains ce qui ne se passe jamais entre les animaux d'une même espèce, c'est-à-dire que les hommes s'entretueraient. Il le dit, un loup, on a cette image, vous savez, parfois de l'homme qui est un loup pour l'homme, lui il dit, jamais, de mémoire de loup, on a vu un loup resserrer sa mâchoire sur la gorge de l'autre loup. L'homme le fait. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Pour Calvin, c'est très évident, il y a dans la conscience quelque chose où Dieu parle. Il ne s'agit pas ici de chrétiens, il ne s'agit pas de juifs ou même de musulmans, même de païens. L'ensemble des hommes sait par sa conscience un certain nombre de choses. Ce qu'il sait, cet homme-là, c'est ce qu'il va appeler l'équité. L'équité, c'est tout simplement, on pourrait le dire, c'est ce que dit Calvin en tous les cas, c'est la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Ça ne veut pas dire que les hommes se comportent selon la règle d'or, mais ils savent que la règle d'or est un principe fondamental dans leur conscience. Cela veut dire pour Calvin que n'importe qui, n'importe quel humain, sait en réalité ce qu'il faut pour vivre de manière proprement humaine. Évidemment, la conscience ne va pas suffire, parce que la conscience peut me dire des choses que je ne suis pas. Il faudra donc qu'il y ait du politique. Et Calvin élabore toute une théorie du politique, de la République, où, contrairement à d'autres de son époque, comme Machiavel, eh bien, il va penser que la République, ça n'est pas simplement un principe égalitaire, c'est un principe où on accepte qu'il y en ait qui dominent sur les autres, mais à condition qu'ils respectent la loi, qu'il respecte cette règle fondamentale de l'équité. Mais il y a plus pour Calvin. La règle d'or, avec son commandement d'équité, demande, et encore une fois, dans le domaine naturel, dans le champ des affaires humaines, pas dans l'ordre spirituel. On est ici vraiment dans la vie terrestre, comme il l'appelle, dans les choses terriennes. Il y a quelque chose de plus. N'importe quel humain sait en réalité qu'il n'est pas tenu simplement de ne pas faire à autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'il lui soit fait, mais il sait aussi qu'il est tenu à se mettre un petit peu à la place de l'autre, à faire à autrui ce qu'il voudrait qu'il lui soit fait. Et ça, pour Calvin, c'est le fondement de ce devoir d'humanité. L'être humain est appelé non seulement à l'équité, mais à l'humanité. Et pour Calvin, ça a des conséquences très concrètes, très pratiques. Cela veut dire que, et là, Calvin reprend des analyses de la philosophie, en particulier d'Aristote, ça veut dire que si je suis en position de domination, d'une manière ou d'une autre, par ma force, par mon argent, par mon intelligence, je dois quelque chose à celui qui dépend de moi, à proportion de ce qui me sépare de lui. Cela veut dire que le riche est au service du pauvre, que celui qui domine politiquement est au service de ses concitoyens, que l'homme, excusez-moi mesdames, parce que Calvin applique ça aussi à la relation homme-femme, que l'homme est au service de sa femme. C'est pour Calvin un devoir et une responsabilité. Et vous savez combien le thème de la responsabilité, même si c'est un mot qui est créé à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est un mot que n'utilise pas du tout Calvin, mais l'idée est bien là, chaque être humain est tenu à une responsabilité vis-à-vis des autres. Et cette responsabilité, c'est un devoir d'équité d'abord et d'humanité ensuite. Il le doit comme homme. Il y a, si on avait le temps, on pourrait le développer, il y a évidemment toute une autre éthique, une éthique de l'amour, une éthique une éthique de la radicalité, si vous voulez même, de l'amour. Une éthique qui, dans le commandement « tu ne tueras pas », ne va pas simplement entendre « tu ne tueras pas », mais, comme le dit Calvin, il faut entendre, selon un principe qu'il appelle la synecdoque, il faut entendre le commandement positif annexé à la défense, c'est-à-dire que celui qui entend comme chrétien « tu ne tueras pas » doit entendre en réalité « est-ce que tu fais tout pour que l'autre vive ?» Mais cette éthique de l'amour, cette éthique de la radicalité, ne va jamais sans d'abord une éthique de la justice. Et cette éthique de la justice, c'est l'équité et l'humanité. Autrement dit, et je pense que c'est une chose importante à rappeler simplement, c'est que dans la perspective réformée, très souvent, la plupart du temps même, les réformés, au moins pendant des siècles, n'ont pas pensé que c'était leur devoir de sauver le monde. C'était l'affaire de Dieu et pas l'affaire des hommes. Et vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a aucun mouvement d'évangélisation parmi les réformés. Les catholiques ont évangélisé beaucoup à cette époque-là, les réformés jamais. Parce que c'était pas leur tâche, c'était pas leur travail. Leur travail consistait simplement à pouvoir offrir à Dieu un monde présentable, un monde ordonné, un monde juste. Ce n'est pas du tout un hasard si les réformés se sont tellement engagés dans les institutions, dans le droit, dans toutes sortes de manières de rendre le monde plus juste. Pas au nom de l'amour, au nom de la justice. Au nom de cette justice qui demandait d'abord l'équité et l'humanité. La charité était très importante, mais elle venait comme un surcroît de justice. Pourquoi la charité était-elle importante? C'est qu'il pensait que l'équité de la règle d'or, dans sa formulation négative, puis dans sa formulation positive, risquait toujours de se laisser enfermer dans le do ut des. Je donne pour que tu donnes. Or, justement, l'amour venait faire éclater ça. Je ne suis pas simplement obligé vis-à-vis de l'autre parce que j'attends qu'il fasse la même chose vis-à-vis de moi. Je suis obligé vis-à-vis de l'autre parce que c'est un homme. Parce que c'est un humain comme moi. Même et d'abord parce que je suis supérieur à lui. En pouvoir, en argent, en intelligence, en talent. Donc cette éthique, si vous voulez, profondément a marqué l'éthos réformé, l'éthos des cultures réformées, et donnait aux chrétiens d'abord de reconnaître son obligation en justice vis-à-vis des autres. Si on fait un saut Alors ensuite, ça s'est traduit, si vous voulez, dans le droit, notamment avec des gens dont on a oublié le nom, comme Othman ou comme Althusius, ces grands juristes réformés, ou bien, évidemment, plus tard, à travers le droit naturel. Le droit naturel, souvent, a eu il a évidemment toute une origine aussi d'autres traditions religieuses et d'autres traditions théologiques, mais il y a toute une perspective réformée du droit naturel. Et la tradition de cet engagement pour l'humanitaire, on parle surtout d'humanité et pas d'humanitaire à ce moment-là, est née en partie de cela, en tous les cas, pour toutes les œuvres qui ont été entreprises dans ce petit monde réformé. Alors, si on avait le temps, là aussi, on pourrait parler du XIXe siècle avec des noms qu'on n'a pas encore évoqués, des noms comme Jean-Jacques de Selon et tout son engagement pour l'abolition de l'esclavage, des noms comme Jean-Gabriel Hénard avec tout son engagement pour l'indépendance grecque, ou des noms comme la comtesse de Gasparin avec tout son engagement en faveur des femmes, etc., etc. Chacun, ou des Lombards Madame Lathion l'a évoqué ce matin en faveur du dimanche. C'était pas simplement des engagements religieux, au sens où finalement on essayait de donner un habillage de justice pour un engagement qui était au fond un engagement confessionnel. Je ne crois pas. C'est que ces gens-là étaient convaincus que leur première responsabilité, c'était la justice. Je vais évoquer maintenant brièvement ce qui s'est passé à Mulhouse dans les années au milieu du XIXe siècle. Vous aviez là, Mulhouse était une ville réformée, vous aviez là un certain nombre de grands industriels du textile. Mulhouse était la Manchester de l'époque pour le coton. Et puis vous aviez de grands métiers à tisser. Et le problème, c'est que le fil se cassait. Et donc ces industriels utilisaient plusieurs milliers, jusqu'à 8000 enfants de moins de 10 ans, pour passer sous les métiers à tisser et renouer le fil. Est-ce que c'était juste? C'était ça que se sont demandé ces industriels. Ils se sont dit à un moment donné, non, comme chrétiens, nous ne pouvons pas faire ça. Mais comment faire? Si on décide simplement unilatéralement de renoncer à ce travail des enfants, eh bien c'est nos concurrents catholiques du nord de la France qui vont en bénéficier. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va utiliser tout notre lobby protestant, français, des industriels, de la banque, etc., pour faire changer la législation et pour interdire le travail des enfants. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis ensuite, ils se sont dit, mais si on fait ça simplement au niveau français, il y a d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, où le travail des enfants continuera d'être permis. Donc il faut poser les bases d'un droit international qui interdise le travail des enfants. Si vous allez dans l'ancien bâtiment du BIT, vous savez, Albert Thomas, premier directeur du BIT, était lui-même un franc-maçon, Grand Orient de France, pas du tout porté sur les questions religieuses. Mais Albert Thomas avait très bien vu, d'ailleurs, que les religions pouvaient être un appui pour lui. Et donc, il avait d'ailleurs décidé d'avoir un conseiller aux affaires religieuses, un catholique, un protestant. Les protestants, évidemment, comme toujours, n'ont pas trouvé à un moment donné le bon successeur, puis le poste a été supprimé. Le catholique a toujours là. Toujours un jésuite, oui. Mais si vous rentrez dans l'ancien bâtiment du BIT, vous voyez une grande plaque à la mémoire de ces industriels en disant « c'est eux qui ont fondé à l'origine le BIT ». Les vrais fondateurs du BIT, c'est eux. Parce que c'est eux qui, au nom de la justice, au nom de l'humanité, une humanité qui servait aussi leurs intérêts, mais au nom d'une humanité, ils ont posé les bases d'une législation internationale interdisant le travail des enfants. Et il y aurait de nombreux exemples de cela. Comment est-ce que l'amour s'articule à la justice. Est-ce que cette justice, dont souvent les chrétiens ont été les porteurs, est-ce que cette justice est simplement confessionnelle ou est-ce qu'elle est universelle? Le troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer écrit, il y a tout juste un siècle, ou presque un siècle, en 1914, un petit livre qui s'appelle « La civilisation et l'éthique ». La guerre de 14 vient d'éclater, Schweitzer, qui est médecin, à l'embarrené, se voit interdit de l'exercice de la médecine parce qu'il est considéré comme allemand. Il est dans une période de remise en question profonde de sa vie. Et ce qu'il dit dans ce petit livre, c'est que la Renaissance, puis les Lumières, ont été porteurs d'un immense projet d'humanité. De mettre l'homme au centre. Qu'est-ce qu'il reste un siècle plus tard, en 1914? Il reste un immense progrès, technique, scientifique, industriel, progrès de l'homme, pas grand-chose. Et Schweitzer dit, si nous ne faisons pas attention, eh bien nous verrons que cet immense progrès scientifique, technique et industriel qui devait servir la cause de l'homme risque de se retourner contre lui. Et malheureusement, vous savez qu'il n'a pas eu tort avec la guerre de 14. En un sens, nous nous trouvons aujourd'hui dans la même situation que lui. En 1917, il y a eu un grand projet sur l'homme, qui a été celui du communisme, et vous savez ce qu'il a donné. Puis celui du national-socialisme, toutes les idéologies du 20e siècle, y compris d'ailleurs aussi le libéralisme économique parfois. Et nous nous trouvons dans la même situation que Schweitzer, c'est-à-dire que le progrès scientifique, technique, industriel a été exponentiel. Le CICR, sans doute, certainement, assurément même, comme d'autres grandes œuvres, ont porté ce projet humaniste. Ils l'ont fait, mais évidemment pas du tout dans la mesure du progrès des sciences, des techniques, de l'industrie. Et moi, je pense profondément que nous trouvons exactement dans le même défi que lui, que Schweitzer il y a un siècle. Si, d'une manière ou d'une autre, nous ne retrouvons pas un élan, un souffle sur un projet humaniste, eh bien, tout le grand progrès qui a lieu dans les autres domaines, je ne dis pas qu'il risque de se retourner contre l'homme, mais il ne suffira pas à garantir ce projet humaniste. Dans ce projet humaniste, je pense qu'il y a au cœur de ce projet, alors Schweitzer, lui, avait trouvé sa propre réponse, vous le savez, devant un troupeau d'hippopotames, en disant « ce qui compte, c'est le respect de la vie ». Et que c'est là où les Lumières ont échoué, c'est que les Lumières ont pensé que nous n'étions responsables que de ce que nous faisions. Mais en réalité, nous sommes aussi responsables de ce que nous ne faisons pas. Et que si nous ne voyons pas que la vie veut vivre, et si nous ne reconnaissons pas que c'est notre responsabilité de faire que la vie puisse vivre, parce que la vie en réalité dépend de notre propre action, eh bien, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, que nous en ayons l'intention ou pas l'intention, ne pensons pas que ni la nature ni Dieu va compenser notre action. Ce monde est à notre merci. Ça a été la grande réponse de Schweitzer. Peut-être que nous avons trouvé d'autres réponses, mais qu'il faut qu'il y ait cette réponse. Et que là, ce n'est pas l'amour qui est la réponse, mais d'abord la justice. La justice ne sera qu'un l'amour ne sera qu'un approfondissement possible de la justice. L'amour demandera encore plus de justice. L'amour viendra corriger les impasses utilitaires de la justice, du do ut des. Mais c'est d'abord la justice qui compte. Et peut-être pour finir, je voudrais évoquer ce que disait un philosophe marqué par ses éthiques religieuses, mais en même temps s'en tenant scrupuleusement à sa place de philosophe, qui est Paul Ricoeur, dont on fête cette année le 100e anniversaire de la naissance. Ricoeur fait ce commentaire à propos d'un texte de l'Évangile qui est le sermon sur la plaine, en Luc 6. Vous savez, Matthieu, c'est le sermon sur la montagne, Jésus, nouveau Moïse. Dans Luc, c'est le sermon sur la plaine. Pourquoi sur la plaine? Parce que dans la plaine se trouvent pas simplement des Juifs, mais se trouvent aussi les païens. Et là, dans ce sermon sur la plaine de l'Évangile de Luc, vous avez une structure très étrange, si vous lisez le texte, même paradoxale. Parce que il y a, dans le discours de Jésus, un discours sur la radicalité et la surabondance, qui trouve son expression la plus radicale dans l'amour de l'ennemi, dans le fait de tendre l'autre joue, dans le fait de ne pas refuser sa tunique à celui qui prend son manteau. Et pourtant, au cœur du sermon sur la plaine, le résumé du sermon, c'est la règle d'or, la réciprocité et l'égalité. Alors, qu'est-ce que veut dire Luc? Qu'est-ce que veut dire Jésus? Est-ce que ce qui compte, c'est l'égalité et la réciprocité, c'est-à-dire la justice? Ou ce qui compte, c'est de sortir de cette logique de l'égalité et de la réciprocité pour l'amour? Eh bien, Ricoeur défend que c'est l'un et l'autre. Que la traduction pratique sociale de l'amour, c'est la justice. Que l'amour ne rentre dans le champ des affaires humaines qu'à travers la justice. Et qu'à l'inverse, le rôle de l'amour, c'est de demander encore plus de justice. Autrement dit, que le rôle des chrétiens, ce n'est pas simplement de rappeler la radicalité de l'amour, mais c'est d'abord d'être ceux qui portent, avec d'autres naturellement, la justice dans le monde. Voilà.
Merci François. Quelques questions, Monsieur Dunant?
Merci pour cet exposé très clair. Une question un peu particulière. Pouvez-vous citer des noms de ces industriels mulhousiens? Est-ce qu'on en connaît qui ont émergé du lot ou bien pas?
Oui, on les connaît tous, à vrai dire. C'était les Schlumberger, les Dollfuss, les Koechlin, c'est-à-dire tous ces gens qui faisaient partie de la société industrielle de Mulhouse. C'est les mêmes, si vous voulez, qui ont posé les bases pour leurs ouvriers, pour aussi fidéliser leurs ouvriers, c'est-à-dire qui regardaient leur intérêt tout en cherchant la justice, qui ont posé les bases des retraites pour leurs employés, etc. C'est tout le travail social, si vous voulez, de ces gens-là. Mais ce qui est intéressant, et puis il y en a d'autres, il y avait aussi, comment s'appelle-t-il, le pasteur Legrand, qui était un pasteur qui, lui, dans la suite d'Oberlin, je ne sais pas si le nom même d'Oberlin vous dit quelque chose, a essayé de donner du travail aux gens qui étaient dans des vallées un peu reculées en Alsace, et qui a eu aussi tout un travail social et législatif. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout un hasard si quand on crée l'académie à Genève, hein, l'ancêtre de l'université, on crée tout de suite une faculté de théologie, naturellement. Cette salle était l'auditoire de théologie. Mais on crée aussi une faculté de droit et de médecine. Pourquoi le droit et la médecine? Parce que le droit et la médecine contribuent à rendre le monde plus humain.
Merci beaucoup, professeur, pour votre excellent exposé. Vers la fin, vous avez parlé de la justice. Je pense que vous disiez la paix
passe par la justice et l'amour doit être subordonné à la justice. Moi, je voudrais savoir où est-ce que vous mettez le pardon. Parce qu'à mon avis, il ne peut pas y avoir de paix si, avec la justice, on ne met pas aussi en action le pardon. Ce qui ne signifie pas oublier, mais le pardon me semble essentiel.
Oui, vous avez évidemment tout à fait raison. Mais j'étais la semaine dernière à un colloque à Bruxelles, organisé par en partie des gens qui vivent ici à Genève, qui sont les Bogossians, les joailliers, et un colloque à propos du génocide arménien. Évidemment, les gens se préparent parce que l'année prochaine ou en 2015 aura lieu l'anniversaire de ce génocide. Est-ce qu'il est possible de pardonner ? Eh bien, voyez, moi, ce que j'ai essayé de défendre dans ce colloque où il y avait une émotion, c'était pas juste un colloque académique, il y avait là à peu près 200 personnes qui étaient pour beaucoup des Arméniens ou des descendants d'Arméniens. Est-ce qu'il est possible de pardonner ? Le problème du génocide, c'est d'abord qu'on considère l'autre comme appartenant à une catégorie. On ne le reconnaît plus comme personne, on le reconnaît comme arménien, à cause d'une race, ou à cause d'une religion, ou à cause de tel ou tel trait. Et le problème, c'est que les victimes considèrent les bourreaux d'abord comme une catégorie aussi, en miroir, les Turcs. Comme si tous les Turcs avaient ontologiquement ou intrinsèquement certains traits particuliers. Et que l'exigence première, avant de pardonner, eh bien, c'est de restituer sa place à l'autre comme autre. Que tous les Turcs ne sont pas comme on imaginait qu'ils étaient. Que tous les Arméniens ne sont pas non plus comme on pourrait imaginer qu'ils soient. Et que là, il y a une exigence de justice qui est première. De reconnaître l'autre dans sa responsabilité, et c'est, je pense, tout l'énorme effort qu'ont fait des siècles de christianisme dans la culture occidentale sur la responsabilité, c'est-à-dire que la responsabilité devient une responsabilité subjective, et que si je reconnais que je suis l'auteur de mes actes, et que j'en assume les conséquences, je suis aussi capable d'amendement, aussi capable, je vaux mieux que ce que j'ai fait. Et que dans l'aveu, le droit le reconnaît. Donc il y a bien sûr sa place pour le pardon, mais pas un pardon sans justice, pas un pardon sans reconnaissance, pas un pardon sans responsabilité. Alors, encore une fois, loin de moi l'idée de vouloir tout aplatir sur la justice, je pense que le pardon, comme l'amour, comme le commandement supraéthique même de l'amour des ennemis, a sa place, mais à travers la justice d'abord.
Moi, c'est une remarque sur laquelle je souhaiterais vous entendre. Vous avez terminé votre présentation en faisant état de la création d'une faculté de droit et d'une faculté de
médecine
à côté de la faculté de théologie comme un moyen d'être humain. Et moi, il me semble, c'est d'ailleurs un peu une introduction à ma présentation de tout à l'heure, qu'on pourrait dire le contraire. C'est-à-dire que ce qui fait d'abord l'humain, c'est le fait de juger et de soigner. Ce qui nous a construit dans l'évolution, c'est ça. Nous avons les plus vieux métiers du monde, finalement, c'est pas, contrairement à ce que dit certains propos démagogiques, la prostitution, c'est le jugement et le soin, qui étaient d'ailleurs dévolus aux prêtres. Toutes les fonctions étaient confondues. Donc est-ce qu'on ne peut pas voir la chose dans l'autre sens, non pas comme un objectif, mais comme une origine?
On peut, mais si vous voulez, on peut aussi dire que le plus vieux métier du monde, c'est celui du pasteur ou du prêtre. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, le soin du corps et le soin de la personne. Moi, je pense que pendant des siècles, jusqu'à encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures, on n'oppose pas dans la personne le spirituel et l'humain. L'humain, le corps, le droit et le religieux vont de pair. Parce que les trois rendent compte de dimensions qui sont constitutives de l'être humain. Donc ici, moi j'en suis convaincu, si vous voulez, j'en suis convaincu, pas simplement pour des raisons de chapelle, hein, mais qu'il y a une inspiration en l'homme qui dépasse simplement la vie biologique et des règles d'ordre social qui permettent de la coexistence pacifique des gens. Il y a une inspiration en l'homme qui dépasse cela. Et que prendre en compte ces différentes dimensions, c'est prendre en compte non pas certains humains plutôt que d'autres, c'est prendre en compte l'humain comme tel. Donc je ne sais pas qui est le premier, tout ça va de pair naturellement.
Oui, puisque tout le monde se bat pour savoir quel est le plus vieux métier du monde, je prétendrais que c'est l'enseignant. Voyez-vous, le premier australopithèque qui a montré à un petit australopithèque comment il fallait tailler un caillou, c'était le premier enseignant qu'il y a eu au monde. Et il est venu, je m'excuse, avant la première prostituée, avant le premier prêtre et avant tout le monde. Mais ceci étant, je ne dis pas ça pour embêter. J'ai été très frappé quand on parle du soin. Parce que on a à Genève une histoire qui est tout à fait extraordinaire. On a découvert dans une grotte pas loin au Salers un type qu'on a appelé l'homme aux grenouilles. Il a 15 000 ans à peu près. Il est dans un carton aux acacias. Et ce type avait le crâne complètement fracassé. Il avait eu un gros attentat sur la tête. Il avait une jambe cassée. On l'avait trépané. Et il était devenu parfaitement infirme. Et au fond, il n'avait survécu que parce qu'il avait été soigné. Et il avait pu vivre pendant plusieurs années que parce qu'on s'était occupé de lui sans arrêt. Or, les gens qui s'en sont occupés, on le sait parce que on a fait quelques études là-dessus, c'est un petit groupe d'une quarantaine de personnes. Ça a été une charge épouvantable. Et moi, je pense que là, si on pense à ces gens, eh bien, on voit là naître ce que j'appellerais l'humanité, vous voyez. Il était en danger de mort, on s'en est occupé, on l'a soigné.
Madame.
De qui émane cette expression?
Alors là, donc, comme ça vous a été dit il y a un instant, si vous voulez, la règle d'or se trouve énoncée par Jésus, mais d'ailleurs, selon les évangiles, c'est pas Jésus qui l'énonce, mais c'est un juif, c'est un rabbin. Hein, c'est-à-dire que, et effectivement, la règle d'or se trouve dans le rabbinisme très profondément. Elle se trouve aussi d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Mais elle se trouve aussi dans les religions et dans les philosophies orientales. On la retrouve dans le confucianisme, etc., dans l'hindouisme. Plus profondément, elle ne se trouve pas dans la philosophie antique. Ceci étant, dans la philosophie antique, le principe même de la justice, c'est l'extension à tous de l'amitié. Or, l'amitié, précisément, repose sur l'égalité entre deux amis et la réciprocité, ce que je fais pour l'un et vaut pour l'autre. C'est-à-dire que les principes mêmes de la règle d'or sont communs, si vous voulez, à l'ensemble de la philosophie et des religions. Là, il y a quelque chose comme une espèce de... On ne peut pas dire forcément d'universel, parce que c'est l'expérience humaine qui a montré que si on veut trouver un principe de justice premier, sans doute la règle d'or permet de bien le dire. Au moins, c'est ce qu'on a pensé pendant très longtemps. Plus tard, on dira, si vous voulez, par exemple, à travers Kant et à travers toute la philosophie, qu'il y a des manières plus élaborées de dire ça. Peut-être sans doute meilleures que ça. Mais fondamentalement, cette idée d'égalité, de réciprocité, alors après la formulation positive de la règle d'or, fait autrui ou ne fait pas autrui, c'est comme ça que Calvin distingue l'équité de l'humanité. Mais il y a quelque chose, et effectivement, si on utilisait cette règle d'or, même si elle n'est pas parfaite, pour penser les relations humaines et penser la justice dans les relations humaines et penser l'humanité dans les relations humaines, ça changerait énormément de choses. Calvin donne cet exemple tout banal. Il dit à ses auditoires, dans cette pièce-ci, il leur dit, mais combien payez-vous votre femme de ménage? Est-ce que vous lui payez le tarif qui est permis par le droit? Est-ce que vous payez votre femme de ménage le tarif usuel, je ne sais pas, 25 francs de l'heure? Ou est-ce que vous lui payez ce qu'il lui faut pour ne pas vivre chichement, comme il le dit, ou pour vivoter petitement? Alors, si vous utilisez la règle d'or comme principe de justice, eh bien, vous vous demanderez combien vous payez votre femme de ménage. Pour lui, c'est comme ça qu'il le fait. Et il donne toutes sortes d'exemples extrêmement concrets. Combien, est-ce que ton salarié, tu le payes à la fin du mois, ou est-ce que tu le payes tous les jours? Est-ce que tu te mets à sa place pour savoir, est-ce qu'il a besoin de ce salaire-là pour vivre ce soir? Alors à ce moment-là, ça va changer quelque chose dans ta manière d'être juste avec lui, et progressivement tu deviendras plus humain. Mais l'humanité, c'est pas des grands, grands principes, c'est des choses très, très concrètes dans la manière d'agir vis-à-vis de ceux qui dépendent de nous.
Merci François. Une demi-heure de pause et nous nous réjouissons déjà d'écouter Ronnie Broman.